courte introduction, la deuxième épître aux Corinthiens, elle fait suite à la première. Hein, merci. Il me semble. Elle a été écrite à peu près historiquement en l'année à peu près 57 après Jésus-Christ. L'auteur et les destinataires sont les mêmes. C'est-à-dire, je vais vous faire travailler ce matin. Et les destinataires, les Corinthiens. Vous êtes tous d'accord? Bon. C'est donc une correspondance entre l'apôtre et la communauté chrétienne à Corinthe. Elle intervient dans un cadre un peu délicat et mouvementé. La relation entre l'Église et son fondateur Paul est sous pression. Il doit dissiper des malentendus et défendre son autorité face à ceux qui la contestent. Voilà en gros l'introduction que j'ai pu trouver, qui résume très courtement cette deuxième épître. Donc il y va pour... Il a détecté certaines choses, et donc il va là-bas pour essayer de s'expliquer. Je vais relire les versets 11 à 14... Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. J'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Le « nous » et le « vous ». Souvent, Paul, dans cet épître, il fait comme Louis XIV, il dit « nous ». Hein, il parle de lui, il dit « nous ». Et quand il s'adresse « vous », il s'adresse bien évidemment aux Corinthiens. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Le sujet est posé. Vous imaginez bien un peu les petits soucis qu'il devait y avoir à Corinthe. Paul présente un peu le tableau. On reviendra sur verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous donc sont morts. Alors ce matin, on va essayer de survoler quatre tout petits sujets, parce que dans ces 11 ou 12 versets, il y a de quoi passer du temps et éplucher. On va essayer de parler de crainte, on va essayer de parler de être aimé. On va faire une toute petite parenthèse sur une doctrine qui s'appelle la doctrine de la substitution. Un peu le point central, je pourrais appeler le thème, le centre du message, le titre, qui m'interpelle pas que depuis une semaine, mais depuis longtemps, c'est être en Christ. Tout un programme. Je pense qu'il peut interpeller chaque enfant de Dieu. Et chaque fois, donc, j'ai rajouté être en Christ, entre parenthèses, c'est mon identité. C'est ton identité. En sous-paragraphe, après la substitution, on va parler aussi, heureusement, de la réconciliation. Et non pas de la négociation avec Dieu. Réconciliation, non pas négociation avec Dieu. Et puis on s'arrêtera aussi courtement sur ce mot, moi qui m'interpelle depuis longtemps, c'est le mot ambassadeur. Parce que des fois on a des images de ce qu'on voit à la télévision à propos des ambassadeurs, on reparlera, on s'arrêtera un petit peu sur ces mots. Premier point, crainte du Seigneur est aimer et être aimé par Dieu. On voit tout de suite le premier verset, le verset 11, au sommet là-haut. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Vous connaissez la crainte du Seigneur? Vous avez vos Bibles? Remontez. Juste au verset 10, avant ceux qui l'ont. Paul dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je répète pas. La crainte. La crainte pour le chrétien. On va regarder ça, vous savez, généralement dans votre vie, sortons du contexte biblique. Généralement, quand tu as crainte de quelque chose, temporellement, dans le temps, ça se situe où ? Tu as peur de ce qui va arriver. On est d'accord ? On a rarement peur de ce qui s'est déjà passé. On a peur de ce qui est avant nous. Donc, la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu, nous amène vers l'avenir. On est bien d'accord. Le verset 10 a dit, il faudra bien qu'un jour, on passe tous devant le trône blanc. Peu importe, il va falloir quand même y passer. Donc, ce verset 11 nous parle de la crainte de Dieu. On regarde devant. Verset 14. L'amour de Christ pour moi, son sacrifice, on le dit, le verset 14, car l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Christ ? L'amour de Christ est, bien évidemment, a été matérialisé à la croix. Donc, temporellement parlant, pour nous, pour vous tous qui êtes enfants de Dieu ce matin, la croix, elle est, c'est un événement passé. On est bien d'accord. Donc, on se situe là, à l'instant T, aujourd'hui, dimanche matin, le 23, on est dans le temps présent, en tant qu'enfant de Dieu, sauvé. On regarde derrière, on a la croix, et devant, on a l'objectif, comparaître un jour, voir notre Sauveur. Et ça, ça nous aide, moi, enfin personnellement, moi ça m'aide à savoir cette fameuse question, né de nouveau, nouvelle créature, d'où je viens, sur quoi je m'appuie, ma base, je suis né à la croix, et où je vais, on verra, j'ai la certitude, je vais rencontrer mon Sauveur, et je passerai l'éternité avec lui. Je ne sais pas si vous avez encore des souvenirs de votre conversion. Il y en a qui ont des souvenirs francs, d'autres un peu flous. Mais moi, je me souviens me dire, après cette conversion, bon, et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? J'avais l'impression d'être un peu, bon, ben, ça y est, c'est acquis, je suis sauvé. Mais j'avais un peu du mal à construire un peu une direction, un peu une identité. Et qu'est-ce que je fais ? Où je vais maintenant ? Pourquoi je vais dans une église locale ? On me demande de faire les œuvres bonnes que Christ a préparées pour moi. Pour que ma vie ait du sens, avant tout, avant de chercher une direction, je pense qu'il faut savoir sur quoi on s'appuie, sur la croix, et où on va, souvenir de ce qui s'est passé, et puis aussi de la crainte, la sainte crainte de Dieu. C'est important quand on fait des choix, quand on prend des directions, de savoir où on va. On n'est pas seul. Et je dirais aussi, là récemment, on a presque terminé l'étude sur un personnage super sympa qui s'appelle Joseph. Vous pouvez prendre les pérégrinations de Joseph. Peut-être que dans cette salle, il y en a qui ont sûrement eu des grandes pérégrinations dans leur vie. Mais Joseph, il avait l'assurance que Dieu était avec lui. Avoir son identité en Jésus-Christ, quelle que soit la situation, c'est avoir l'assurance que je suis assis sur un rocher où s'est matérialisé l'amour de Christ et qui se terminera devant le grand trône blanc. Quel que soit le circuit, quelle que soit la manière dont on va y arriver. On a commencé là, on va terminer là-bas. C'est important, au jour le jour, au quotidien, d'être ancré dans cette identité. C'est très, très, très important. Parce que quand tout va bien, mais quand la tempête arrive, quand ça secoue violemment, quand les mâts du navire ils commencent à casser, que les voiles se cassent la figure, c'est hyper important de connaître son identité en Jésus-Christ. Une des motivations, donc les deux motivations de Paul ici, c'est la crainte, sainte crainte de Dieu. Souvent on dit, nous évangéliques, on a l'impression, on dit que on vit dans un monde de bisounours. Les bisounours, c'est après. Aujourd'hui, c'est pas un monde de bisounours, vous le voyez autour de vous. Et la crainte de Dieu, c'est une réalité qui nous aide, c'est un guide. Alors, quelques mots concernant la substitution. Qu'est-ce que ça veut dire la substitution? On va lire les versets 14, 15 et puis le 21. Se substituer, ça veut dire quoi? Prendre ma place. Prendre ma place. Versets 14, 15 et 21. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On le dit, Eric l'a souligné, c'est un, je dirais, un fondamental, puisque nous avons la grâce d'être dans une église où Christ est au centre, christocentrique, n'est-ce pas ? Christ prend ma place, ta place, et il a subi la punition que je devais, que tu devais porter, substituer, pris carrément la place. Vous vous rappelez cette petite vidéo sympa où Jésus te pousse en dehors de la balance devant le grand tribunal et il monte à la place, à ta place. Substituer. Qu'est-ce qu'il prouve ça, d'après vous? Toi, moi, en tant qu'enfant de Dieu, dans ton cœur, qu'est-ce qui prouve ça que Jésus a pris ma place? C'est la résurrection. Christ est ressuscité. Et qu'est-ce que veut dire la résurrection pour le Père? Ça veut dire qu'il a accepté ce sacrifice. Il a accepté ce sacrifice. C'est pour ça que on arrive dans le domaine délicat où on n'a rien à faire. Pas de négociation avec Dieu. Le Christ s'est totalement substitué à nous. Il a pris notre place. Et ce n'est pas une philosophie, une galéjade, puisqu'il est mort, il est ressuscité. Et la résurrection de Christ signifie que Dieu a agréé, a accepté ce sacrifice. Encore une chose dans mon identité, dans mon enracinement personnel, quel que soit le vent, la tempête, Christ est ressuscité, le Père a agréé ce sacrifice, il s'est substitué à moi. C'est ça, pardonner mes péchés. Effacer, il s'en souvient même plus. Celui qui l'a fait, qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je ne m'arrête pas, il y aurait de quoi dire. Versets 16 et 17. Ainsi donc, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle chose. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous connaissez connaissez ce verset par cœur. J'espère. J'espère. Pour Paul, être chrétien, cela signifie être en Christ profondément et spirituellement lié à Christ. Tout petit commentaire pour le verset 16, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. J'avoue que j'ai cherché un peu qu'est-ce que disaient certains commentateurs. Les commentateurs disent que Paul fait souvent, pense qu'il fait un peu une relation par rapport à sa propre conversion. On est bien d'accord que Paul n'a pas connu Jésus de son vivant. On est bien d'accord. Il l'a vu. Par contre, on peut dire qu'on sait ce qu'il a fait avant de se convertir à l'Église, d'une certaine manière. Donc il a connu charnellement l'Église, et puis maintenant il le connaît spirituellement. C'est aussi une image pour chacun d'entre nous aussi, de comment nous étions avant et comment nous sommes maintenant. Quel regard, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors, être en Christ. Mon identité, la clé de voûte, s'il y a quelque chose dont vous pouvez vous rappeler aujourd'hui, c'est ça. Très souvent, bien sûr, je ne sais pas vous, mais moi de temps en temps, le doute s'installe. Suis-je une nouvelle création? Je regarde Gérard parce qu'on a à peu près le même âge, mais je ne sais pas, quand vous sortez de la douche, vous regardez dans une glace, pas franchement le sentiment qu'on se trouve une nouvelle création physiquement. C'est un clin d'œil que je fais, mais c'est une réalité dans nos vies, même quand on se regarde, quand on regarde nos vies à travers un miroir. Et c'est là, on a cette petite voix qui dit, Guy, mais t'es sûr? T'es vraiment sûr que t'es une nouvelle créature, une nouvelle création? Et c'est important, pourquoi c'est tellement important de connaître la parole de Dieu, de savoir d'où on vient, où on va et qui on est. La réponse, oui, j'en suis sûr. Parce que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Tu as accepté le sacrifice. Tu es né de nouveau. Tu es né de l'Esprit. Et voilà. Je suis sûr, car cela vient de Dieu et non pas de moi. On n'a pas tous vécu des conversions comme Paul, mais je pense que les exemples qui nous sont donnés dans la parole de Dieu avec les personnages qui peuvent être d'une certaine manière un petit peu, pas caricaturales, mais avec vraiment des traits extrêmement marqués, sont là pour nous éclairer beaucoup, pour nous secouer un peu, peut-être pour nous questionner aussi. Souviens-toi, regarde avant que tu étais à la croix, regarde où tu es maintenant et donne un sens à ta vie. Avance. Le fait que tu sois une nouvelle création dépend bien sûr de ta foi que tu as mise dans le sacrifice de Christ, mais après, cette nouvelle créature, c'est pas moi en faisant un régime, ou alors en mettant un beau costume, je ne sais pas trop quelle marque, hein, comme voilà, on ne va pas faire de politique ce matin, qui fait que je suis une nouvelle création. Être en Christ, c'est mon identité. Ça ne dépend pas de toi, cela dépend du Père qui a agréé ce sacrifice. Alors, le verset 18 nous dit exactement ça. Et tout cela vient de Dieu, et lui seul par sa puissance et par sa grâce. Il y a un joli verset aussi que vous pouvez, que j'aime beaucoup, qui est dans le chapitre 4, toujours de la deuxième épître aux Corinthiens. Verset 6, car Dieu a dit, il n'est pas là, la lumière brillera du sein des ténèbres. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous pouvez reprendre ce verset. Vous imaginez un peu les miroirs. C'est Paul qui dit ça. Je n'ai pas l'impression que dans ce verset 6, il ait fait vraiment quelque chose. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais on n'a rien fait. On ne négocie pas avec Dieu. Je lui dis oui. Il fait de moi une nouvelle créature. Après, sa parole de Dieu est là pour nous construire, pour nous guider, pour nous faire avancer. Mais le point de départ, le point d'arrivée, on le connaît. Verset donc 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors ça, c'est la responsabilité, le poids. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Enfin, je ne sais pas que les premières fois que vous lisez ça, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas tout toi-même, quoi ? Je veux dire, tu connais toutes choses. Pourquoi tu as confié à Paul, à Jean, nous, Gérard, Guy, Philippe, tous les frères et sœurs qui sont là. Il nous a confié la parole de réconciliation. Et généralement, le verbe confier, Eric, je te confie quelque chose. D'ailleurs, le verbe confier, il y a une signification de quelque chose de précieux, n'est-ce pas ? Si je te confie quelque chose, c'est que j'y tiens. Dieu te confie la parole de réconciliation. Tu es maintenant réconcilié avec Dieu. Il nous a confié ce ministère de réconciliation. Encore une chose qui va nous donner une identité, un sens à ma vie. Mais d'une manière, c'est lui qui fait tout. Donc, c'est pas la peine de regarder ces versets d'une manière à se culpabiliser. Ça, c'est le malin qui nous dit « t'en fais pas assez, d'ailleurs. » Non. Par contre, il faut être au courant de ce que Dieu a confié à chaque enfant de Dieu sur cette terre, la parole de réconciliation. La réconciliation, elle nous rétablit dans une relation de paix avec Dieu. Frères et sœurs, nous sommes réconciliés avec Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Ça vaut tout l'or du monde. Si vous croyez en Dieu, si vous avez placé votre confiance en Christ, tu es en paix avec Dieu. Dans ce qu'on entend dire aujourd'hui dans le monde, ce qu'il y a autour de nous, rien ne pourra nous enlever cette paix que nous avons avec Dieu grâce à cet acte extraordinaire à la croix, n'est-ce pas ? Identité, je suis en paix avec Dieu. Un petit commentaire, qui n'est pas de moi. Cette réconciliation avec Dieu opère un changement radical dans les dispositions du pécheur envers Dieu. Son cœur charnel, rebelle, ennemi de Dieu, se rend d'une manière rendre, je me rends, j'y vais, je me rends, hein, je vais me rendre, drapeau blanc, je me rends, se rend à Dieu par, un mot qu'on n'aime plus dire aujourd'hui, la repentance. Il accepte sa délivrance comme une grâce. Il revient à Dieu comme à son Père. Il est plein d'amour et de reconnaissance. Ma communion avec Dieu, détruite par le péché, originel et quotidien, est rétablie. Le cordon coupé dès le départ, il est rétabli. Encore une fois, une pierre à l'édifice de mon identité en Christ. La paix, le cordon ombilical avec mon Père céleste est rétabli. Important. Je termine avec ambassadeur. Nous faisons donc fonction, à partir du verset 20, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Alors ça aussi, ça m'a... Quelle responsabilité. Je dis, Seigneur, mais je ne peux pas, les épaules que j'ai, je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, le mot ambassadeur doit être un peu remis dans son contexte. Aujourd'hui, si je vous dis ambassadeur, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous vient comme esprit? Aujourd'hui, au XXIe siècle, un ambassadeur, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui est dans son ambassade. Voilà, qui discute, qui fait un peu l'intermédiaire, ou des choses comme ça, qui fait un peu le lien. On est d'accord. Bon. Il ne faut pas s'enfermer dans cette idée d'ambassadeur que nous avons au XXIe siècle. Revenons un peu en l'an où ça a été écrit. C'était l'Empire romain. Les Romains, ils négociaient, vous croyez? Pas d'ambassade, hein, les gars, c'est... Dans leur façon de faire, les ambassadeurs étaient envoyés dans chacun des pays conquis, là où Rome était victorieux, pour présenter les termes de la paix, et puis c'était à prendre ou à laisser. Ça veut dire l'ambassadeur, il arrivait, les gars, voilà, c'est comme ça, vous acceptez. Voilà les choses positives, voilà les choses négatives. Déclinons un peu dans la mission de Paul, ambassadeur. Il annonçait l'évangile, pas pour négocier la manière dont il fallait annoncer l'évangile. Il annonçait l'évangile, de A jusqu'à Z, et il mettait chaque personne face à sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est clair qu'on dit, oui, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et de se dire tous les jours, il faut culpabiliser les gens, il faut culpabiliser... Non. Notre responsabilité d'ambassadeur de Christ, comme ça se faisait à l'époque, est tout simplement, en toute simplicité, d'annoncer autour de nous l'Évangile. Simplement l'Évangile, mais tout l'Évangile. D'accord? Tout l'Évangile. Et je peux vous dire que c'est pas simple. regarde, mais bon, il faut annoncer vraiment tout l'évangile, notamment pour les gens qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît bien, qui sont là autour de nous depuis longtemps, dans sa famille. Voilà. Le mot ambassadeur. Dieu nous fait ambassadeurs, non pas pour aller dans un pays étranger pour essayer de discuter ou de négocier, simplement de présenter son évangile, la bonne nouvelle de A jusqu'à Z. Alors, annoncer l'évangile, c'est porter les détails d'une proposition de paix avec Dieu. Chaque fois que on annonce ou on se trouve dans une situation où on peut, le Père nous a confié simplement la responsabilité de présenter. Après, on sait bien que c'est lui qui fait son travail. Mais pour que la parole de Dieu revienne à lui ou agisse, il faut que quelqu'un puisse se positionner et avoir entendu tout le message. On voit aussi à la fin du verset, que je retrouve. Verset 20. Nous vous faisons donc fonction d'ambassadeur, donc pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Ça veut dire que celui qui vient annoncer l'évangile, et c'est là où on fait la différence avec l'ambassadeur de Rome, celui qui vient annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, il aime, et c'est par amour qu'il vient annoncer, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà cette belle fonction d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'on nous a confié la parole, rien de plus, rien de moins, et simplement par amour, nous vous en supplions, allez, afin qu'il soit réconcilié avec Dieu. Je vais m'arrêter. Je vais revenir au tout début, rappeler les points importants. Savoir d'où je viens. Crainte, sainte crainte de Dieu. Savoir que je suis aimé par le Père. Je peux faire ce que je veux. Potentiellement, le Père, Dieu aime ses créatures. On ne va pas attaquer un autre message, mais c'est la première loi spirituelle. Il y en a quatre. La première, quel que soit l'individu, le Père l'aime. Ça, c'est pour les profs de maths ou les physiciens, c'est le potentiel. Pouf. Il y a 380 dans la prise, on s'approche, on met les doigts dedans, l'amour de Dieu se déverse. Ça, il ne faut pas dire celui-ci, Dieu ne l'aime pas. Ou... Non. Crainte, être aimé de Dieu, on est sûr. Substitution. Christ, le sacrifice de Christ, s'est pleinement substitué pour prendre notre place. On n'a rien à faire d'autre. On est libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes. Être en Christ, il faut se le mettre là partout, je suis en Christ, sans faire de l'orgueil avec ça, mais en toute simplicité pour éviter de vaciller. Nous sommes réconciliés, nous avons la paix avec le Père. Ce n'est pas la peine d'essayer de négocier, de lui dire « t'as vu ce que j'ai fait la semaine dernière, j'espère que ça t'a plu et tout ». Laisse tomber. Laisse tomber. Ça ne sert à rien. Mets ceci en perspective et là tu dis « Seigneur, je viens de là, je vais là, qu'est-ce que je fais pour toi ? Tu m'as dit, tu m'as donné cette fonction d'ambassadeur. » Je ne sais pas parler, je ne sais pas causer, je ne sais pas, par contre, je peux distribuer des tracts, des choses comme ça, peu importe. Mais pas de doute. Dieu t'aime, confié, si tu as accepté le Christ dans ta vie, tu es sauvé, tu passeras l'éternité avec lui. Amen. Je peux demander à Philippe de terminer par la prière? Bon dimanche à tous.